Bonjour et bienvenue au show Minter Dialogue, épisode numéro 119. Je suis Minter Dial, votre compère et hôte pour ce podcast. Mon invité aujourd'hui est Nicolas Chausson. Nicolas est un patron affirmé, ayant été directeur général chez L'Oréal, ensuite fondateur de la filiale de GHT France, qu'il a guidé au succès pendant 12 ans. Il est désormais PDG et propriétaire de Velecta Paris, le premier fabricant mondial de sèche-cheveux professionnels fabriqués en France. On discute de son parcours, les leçons qu'il a apprises depuis ses jours chez L'Oréal, l'aventure GHT et maintenant Velecta. On explore comment il a géré la crise de la pandémie, les enjeux et ambitions de son business, ainsi que la stratégie en ligne, y inclut l'e-commerce. Si ce podcast vous a plu, merci de prendre quelques instants pour laisser une revue sur votre service de podcasting préféré. Plongeons alors dans cette nouvelle émission avec Nicolas. Nicolas Chausson, oh là là, que ça fait plaisir de t'avoir. Je te connais depuis des années, quelques décennies. On s'est rencontrés lorsqu'on était tous les deux chez L'Oréal. On s'est rencontrés sur les terrains de tennis. Tu m'as souvent mis des patates. Et toujours un plaisir de parler avec toi. Nicolas, dans tes mots, comment souhaiterais-tu te présenter ?
Eh bien, je m'appelle Nicolas Chausson. J'ai 51 ans et nous avons évoqué il y a quelques secondes tous les deux le fait qu'on était assez proches aussi en âge, mon vieil ami, et qu'il fallait donc continuer à se voir sur les terrains de tennis. Je travaille dans le monde de la beauté, de la coiffure, depuis toujours. Après mes études, je suis rentré chez L'Oréal Professionnel et c'est là, en effet, qu'on s'est rencontrés. J'y suis resté chez L'Oréal Professionnel pendant 13 ans, à occuper différentes fonctions en commercial, en marketing, puis à diriger des marques. J'ai démissionné de L'Oréal en 2006 en étant absolument enchanté de cette entreprise. Donc, je suis parti en très bons termes. J'y ai encore beaucoup d'amis, mais j'avais envie de voler de mes propres ailes. Et puis, j'avais aussi un projet personnel à l'époque qui était de rentrer à Lyon, puisque je suis lyonnais, avec ma femme et mes enfants pour nous rapprocher de la famille. Et donc, en 2006, j'ai créé de zéro la branche française de GHD, une marque anglaise de petits accessoires de coiffage électrique, brosse, lisseur, sèche-cheveux, etc. Là aussi, c'est peut-être mon cycle, 12 ans, 13 ans. J'ai développé de zéro cette entreprise, cette marque, et je l'ai laissée au bout de 12 ans. Elle avait été rachetée, la maison mère, par Coty. Et comme j'avais toujours envie, même 12 ans plus tard, après avoir quitté L'Oréal, d'être un peu indépendant, ça m'allait moyennement de voir cette entreprise rachetée par un grand groupe. Donc, j'ai quitté et j'ai acheté une entreprise qui s'appelle Velecta et que je dirige aujourd'hui depuis 2 ans. Et qui est une entreprise qui fabrique des sèche-cheveux à destination des professionnels. Voilà.
Quel parcours ! Et donc, quand tu étais chez GHT, donc changement de cap avec L'Oréal, et surtout maintenant avec Velecta, qu'est-ce que tu as gardé, outre des bons amis et un bon souvenir, de ton expérience chez L'Oréal ? Qu'est-ce qui était à garder, qu'est-ce qui n'était pas à garder de ce que tu as appris avec ton passage comme on a eu en commun chez L'Oréal?
J'ai gardé des réflexes, j'ai gardé, c'est une école extraordinaire L'Oréal, de méthodes, de formation, mais aussi de petites recettes toutes bêtes, de petites phrases, qui m'ont marqué comme des slogans que j'ai entendus au fur et à mesure de mes années. Une laque, laque, un gel, gel, un spray, spray. Par exemple, ça paraît bête pour des gens extérieurs, mais ça veut dire un produit doit faire le job. Après, on peut rajouter des choses, mais d'abord, il a une fonction de base. Il doit être champion du monde sur ce créneau fondamental. Des petites phrases comme ça, le test de l'ascenseur, qui est peut-être pas du tout... spécifique à L'Oréal, mais qui m'est arrivé. On arrive au 14 rue Royale, on se présente devant l'ascenseur, et puis tout d'un coup, Il y a le président qui rentre avec vous, il va s'arrêter au troisième, vous, vous montez au quatrième, au marketing, et il vous dit, bon alors Nicolas, comment ça se passe? Vous avez 3 secondes, soit vous vous lancez dans une grande explication, et il sort et il n'a rien compris, soit vous lui dites en 2 mots, tout va bien, j'ai un challenge, c'est ça, mais ça va le faire, terminé. Donc ce sens de la formule, de la synthèse, de... Et puis, par rapport à ta question, Minter, sur ce que je n'ai pas gardé, puisque tu t'intéresses beaucoup au leadership, ce qui me pesait un peu chez L'Oréal, mais c'est peut-être normal dans une grosse structure, c'est tout ce qui est politique, réunion massive avec des tas de gens, avec rien qui se passe, etc. Et quelque part, finalement, la machine qui prend le dessus sur l'homme. Et ce que j'ai aimé, ce que je continue d'aimer dans ce tournant que j'ai réalisé en quittant en 2006, c'est de remettre, alors sans que ce soit prétentieux, avec toutes mes qualités, mes défauts, et donc beaucoup mes défauts, remettre l'homme au cœur du truc, remettre l'homme au cœur du moteur. Après, ok, tu as besoin de 2-3 tableaux Excel, tu as besoin de... Mais remettre l'homme, le charisme, les tripes, pourquoi tu fais ça? Bah parce que je le sens. Et le dialogue, et Minter Dialogue, voilà, c'est important, le dialogue. Remettre, oui, c'est ça, le leadership, pas au sens de théorie, mais au sens de... Je crois en des choses, moi, Nicolas Chausson, en tant qu'homme, je crois en des choses qui d'ailleurs ne sont pas que des choses liées à l'entreprise. Je crois en certaines valeurs, je crois en certains principes, j'ai une certaine éthique et j'ai envie d'être le moteur de ça. Je n'ai pas envie de rentrer dans une grille qui a été décidée par quelqu'un d'autre et on me dit qu'il faut que j'épouse bien les angles de la petite case qu'on m'a donnée. J'ai envie d'exister, de rayonner avec mes bêtises, avec mes erreurs, avec mon caractère de merde parfois, avec, tu vois, mais en même temps, d'emmener les gens dans ce que je crois, et ce que je crois, comme ça va être mes tripes, ça va être moi, ça va être ce que j'aime, eh ben, je vais en parler avec beaucoup d'aisance, et je n'ai pas besoin d'un prompteur.
Enfin, c'est ce lien avec ton instinct, ce lien avec qui tu es, qui t'amène à accepter tes faiblesses. Et pour autant, il y a beaucoup d'entreprises qui disent « we have to be people first », il faut mettre l'homme. Il y a souvent des entreprises qui sont contentes de dire ben, « les ressources humaines, c'est les plus importants aspects, assets de notre business, a great place to work », etc. Et donc, c'est beaucoup de gens qui disent ce genre de choses, mais où ça n'arrive pas. Et tu as parlé de la politique, des grands rendez-vous, des grandes réunions. Mais est-ce que tu as d'autres éléments ou d'autres idées pourquoi les gens qui parlent comme ça ne le font pas?
Je crois que quand tu es dans mon expérience, en tout cas, ce que j'ai ressenti moi, c'est que quand tu es dans une grande structure comme ça, il faut que chacun soit bien à sa place. C'est comme un orchestre. Si celui qui joue de la contrebasse, ça le démange un peu d'aller taper 2-3 fois sur la batterie, c'est compliqué. Et donc, la structure, par nécessité, par souci d'organisation, je trouve, et pourtant L'Oréal est remarquable dans son organisation, dans sa capacité à faire éclore des talents, etc. Mais quand même, je trouve que... l'individu est au service ou en tout cas dans la contrainte d'une organisation. Et c'est d'ailleurs ça qui me surprend beaucoup depuis quelques années, cette entreprise totalitaire au sens positif du terme, entre guillemets, en tout cas pas au sens politique, mais qui voudrait tout faire, qui voudrait s'occuper du bonheur des gens. Chief Happiness Officer, come on! Je veux dire, c'est pas le rôle de l'entreprise pour moi. Le bonheur, on ne demande pas à son chef si on peut être heureux et comment être heureux. Je pense que l'individu, sans être individualiste, doit pouvoir rayonner et dans une grosse structure, il y a quand même des contraintes, des barrières, des limites, des cases, même dans une entreprise comme L'Oréal qui pourtant est reconnue, je crois, comme étant très humaine.
Alors, quand tu es parti de L'Oréal, grosse machine, Ensuite, tu commences, j'ai acheté en France, mais ça existait déjà.
Enfin, non, ça n'existait pas du tout en France.
Pas en France, mais ouais. L'entreprise oui, existait en Angleterre. Et donc, il y avait des codes, il y avait un patron, etc. Là, Velecta, il y avait une histoire, bien sûr. 84 ans d'existence de Velecta. Mais là, pour le coup, maintenant, tu es propriétaire et patron. J'imagine que tu dois rendre compte quelque part à quelqu'un, quelque part. Enfin, on n'est jamais à l'abri, mais comment est-ce que tu as géré cette entrée dans quelque chose qui a existé depuis 84 ans? Et est-ce que tu as eu, quel était ton mot d'ordre dans comment tu es arrivé? Enfin, souvent, on parle des premiers 100 jours, etc. Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as imposé Nicolas Chaussant sur Velecta France, Paris?
D'abord, j'avais entendu parler de cette entreprise depuis quelques années parce que le monde de la beauté est un monde quand même petit, entre guillemets. Donc on se
imagine-toi, moi je le connais. Mais moi, voilà. Je le connais. Oh, quand tu même vois, vous allez plus tard.
Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est qu'il y a quelques années, j'avais discuté lors d'un salon où, avec le propriétaire précédent et je lui avais glissé comme ça, moitié anecdote, moitié sérieux. Je lui avais dit, si un jour vous vendez, ça m'intéresse. Bon, à l'époque, j'étais pas prêt à ça, mais et comme quoi, je crois au destin, ce qui doit se faire, se fait. Et donc, cette entreprise, c'est une belle endormie. C'est une vieille dame un peu poussiéreuse avec un potentiel extraordinaire, mais qui a été dirigée par un monsieur qui a beaucoup de qualités et qui a des qualités que je n'ai pas, mais qui était moins enclin, moins au fait de tout ce qui est marketing, commercial, etc. Donc, en fait, cette entreprise, c'était un fabricant. En gros, si je devais le résumer, c'était une usine. Et si je devais résumer justement d'ailleurs mon projet, c'est comment transformer une usine en marque. Voilà, c'est ça mon projet. Alors, ça s'est fait assez vite, le rachat. Et quand je suis arrivé, j'avais convenu avec mon prédécesseur, parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, je crois beaucoup aux hommes, d'abord aux hommes avec un grand H, les hommes et les femmes. C'est d'abord des histoires d'hommes et de femmes et de rencontres et de passions. Et derrière, les KPIs suivent. Mais c'est d'abord des histoires de passion, de charisme, de rencontres, de croyances, d'enthousiasme et de bienveillance, qui est un mot très important pour moi. Donc, mes premiers 100 jours, ça a été d'être assez humble par rapport à ce que les gens en interne imaginaient de moi, parce qu'ils connaissaient mon histoire, ils connaissaient le fait que j'avais été patron de GHD pendant 12 ans, que j'avais construit avec quand même un certain succès cette marque de zéro. Donc, ils étaient à la fois tout contents de me voir arriver, à la fois très craintifs en se disant « Ouh là là, il va tout changer ». Donc, j'ai passé du temps à rencontrer tout le monde. On n'est pas grand, on n'est pas nombreux, hein. On est 27. Mais j'ai passé du temps à rencontrer tout le monde individuellement, collectivement et à écouter. Ça paraît banal hein, ce que je vais dire, mais franchement, à le faire avec le cœur, à écouter les gens. Voilà, je ne suis pas Zorro. Je n'arrive pas en disant « avant, c'était pourri, et maintenant, moi, je suis champion du monde, je vais vous expliquer comment il faut faire ». Pas du tout. Je suis arrivé en disant « voilà, j'ai des croyances, j'ai des convictions, j'ai des valeurs aussi que je voudrais mettre au service de la façon dont je vais conduire l'entreprise. Donc, je n'arrive pas juste avec un dossier bancaire. Est-ce que vous avez envie de rire au boulot? Est-ce que vous avez envie d'être fier de ce que vous faites? Est-ce que vous avez envie que les gens se parlent? Est-ce que vous avez envie qu'il y ait un climat apaisé dans l'entreprise? Et donc, quand on y vient le matin, on y vient le cœur léger, alors qu'apparemment, avant, il y avait quand même des tensions, des silos, les gens ne se parlaient pas beaucoup, ce n'était pas leur habitude. Quand je suis arrivé, j'ai dû acheter un vidéoprojecteur. Il n'y avait même pas de vidéoprojecteur parce qu'ils ne faisaient jamais de réunion. Chacun travaille dans son coin. Ce n'est pas parce qu'ils ne s'aiment pas, c'est parce que ce n'était pas l'habitude. Donc, pardon, hein, Minter, si ça paraît un peu bateau, mais c'est la vérité. Les 100 premiers jours, j'ai essayé d'écouter et de me faire connaître plus en tant qu'homme, d'abord, qu'avec des questions sur les stocks et le taux de marge.
C'est formidable. Enfin, je pense qu'il y a quand même la pression toujours qui est là. Et la réalité du leadership, c'est arriver à tamponner entre cette pression qui est forcément qui t'appartient, que ce soit par des actionnariats ou par tes propres mesures et de comment tu veux t'en sortir, et rester humain. Et c'est ça la difficulté, c'est qu'il y a toujours cette tension et que tu as mis le poids sur l'humanité, tu as mis l'action derrière les mots. Je trouve ça formidable.
Et ça donne aussi beaucoup de soulagement, de relief, parce que moi, je crois vraiment, vraiment, c'est pas un argument de vente, c'est pas pour faire un beau discours, mais je crois vraiment que si tu es aligné, toi, Minter, moi, Nicolas, chacun a un alignement différent, mais je crois que si tu es aligné, si ce que tu fais... tu te sens bien avec des erreurs, avec des petites larmes parfois, avec des loupés, et puis aussi avec des hugs, avec des moments de plaisir, avec de la satisfaction. Le reste suit. Le reste, ça marche si tu te sens bien. Et je pense que c'est aussi ça une difficulté de rayonnement de l'individu dans un grand groupe par rapport au leadership quand tu es toi-même dans une plus petite structure. C'est que tu te dis pas, est-ce que si je fais ça, je vais être bien noté? Est-ce que si je fais ça, je suis bien dans le brief qu'on m'a donné? En fait, tu es toi-même et ça suit derrière. Ça suit avec parfois quelqu'un qui doit, ou toi-même, ramasser les pots cassés parfois. Mais globalement, ça suit parce que tu te sens bien, tu es bien.
Oui, tu es en touche avec qui tu es. Hier, j'étais en train de discuter avec une marque de bière et qui fait un tabac qui s'appelle le Beavertown Brewery. Ils font des bières avec des dessins sur les canettes. Ils ont 90 millions de canettes maintenant qu'ils font par an. Donc, ça marche bien chez eux. Et pour autant, il n'y a pas une espèce de carnet pour charte graphique pour la marque. C'est comme le patron le sent. Et il dit toujours, je suis dans mes tripes. Alors, ça va être difficile de transmettre, mais ça garde... depuis qu'ils ont maintenant une grosse équipe, ça marche bien. Et comment démultiplier, transmettre ce espèce de flair humain quand on devient plus grand, c'est toujours ça la complication.
Tu me demandais tout à l'heure des choses que j'avais retenues de L'Oréal et je te parlais de petits slogans comme ça, mm-hmm. qui ne sont pas venus d'un coup. Je n'ai jamais reçu, toi non plus, je pense, un livre quand tu arrives chez L'Oréal avec des citations. Mais tu vois, je pense à une citation célèbre, je crois que c'était Lindsay Owen-Jones qui disait « Il faut avoir la tête dans les étoiles et les pieds dans la terre ». Quand tu parles de cette difficulté à trouver un bon équilibre entre d'un côté ton instinct, tes tripes et en même temps… un peu de structure, un peu de rigueur, parce qu'il faut après que tout ça, ça ne soit pas juste comme ça en l'air. Il faut que les équipes suivent, qu'elles aient un roadmap, qu'elles aient... Donc, ça ne peut pas être juste, tiens, on fait ça, tiens, on fait ça. Donc, je me souviens de cette citation parce que ça montre que, bien sûr qu'il faut un minimum après de schéma, de cadre, mais ce cadre-là, s'il vient derrière... une joie, un élan, une ambition, c'est pas pareil que quand tu arrives, toi, dans un jeu d'échecs et on te dit, il faut te mettre là, et le jeu d'échecs, il a été préconstruit avant que tu arrives. Je me souviens d'une autre citation, puis après j'arrête avec L'Oréal, mais on disait, il faut avoir le doute créatif et la certitude stratégique. Et j'aimais bien ça aussi, cette espèce d'antagonisme entre, il y a des choses en béton, en marbre, et il y a des choses en chamallow, en caoutchouc, il y a des choses sur lesquelles il faut être flexible, il y a des choses sur lesquelles il faut être carré, voilà, et il faut trouver le juste équilibre.
Je vais te rajouter la citation, comme tu ne l'as pas dit encore, mais c'est quelque chose que j'ai retenu parmi les citations, c'est il faut être soit le premier, le meilleur ou le seul. Et je vois bien qu'avec Velecta, vous êtes le premier et peut-être le seul. Les deux.
Et on va faire en sorte d'être le meilleur.
Voilà, c'est ça. Après, le meilleur, c'est toujours un peu compliqué dans toutes les industries à identifier parce qu'on va toujours avoir... nous, on est dans le meilleur dans cette partie de la performance.
Exactement. Le meilleur en quoi et le meilleur pourquoi.
Exactement. Donc, tout ça, c'est pour définir la catégorie. Mais je voulais y revenir sur un truc que tu as dit au début. car je voulais être pas d'accord avec toi, mais je pense qu'il y a un terrain d'entente. Tu as dit, c'est pas le rôle d'une société de gérer la happiness, la joie des employés. Et là où je suis d'accord, c'est, je pense que le rôle d'un patron, ce n'est pas d'injecter l'énergie. Il faut que l'énergie soit auto-créée, auto-produite. Et après, tu as dit la bienveillance. Et en fait, pour moi, dans le de facto sens de happiness, elle réside dans, il réside dans ce bienveillant, cette bienveillance. C'est-à-dire que là où tu rends les gens confortables, tu rends les gens joyeux, tu as dit amener le rire au bureau, et c'est safe, c'est OK de pleurer, c'est OK d'avoir ces humeurs. Enfin, ça, c'est la bienveillance, mais c'est aussi comme ça qu'on construit un vrai bonheur. Car on a un projet, on lutte ensemble, et si on va bosser pour certains 12 heures par jour, surtout quand on est propriétaire, autant faire que ça soit bien. Parce que si je ne vis pas ma vie pendant que je travaille, je le fais entre le temps que je vais dans la douche et que j'appelle un copain. Et enfin, ta vie est limitée à rien. Donc, pour moi, la création de bonheur, ça peut exister, ça doit quelque part exister, si on veut avoir des employés épanouis qui vont rester et qui vont donner de leur sort et de leur énergie volontairement tous les jours.
Tu as raison, mais je me demande, je suis d'accord complètement avec ce que tu as dit, je me demande juste si cette bienveillance, cette joie, happiness, bonheur, je ne sais pas comment on le traduirait, si on devait traduire « chief happiness officer », mais ce qui me gêne, j'ai peut-être mal compris ou j'ai peut-être tort, c'est d'en faire une fonction comme si s'il y avait quelqu'un qui détenait ça, alors que je pense, comme tu l'as dit, qu'il n'y a pas à avoir un chief happiness officer. C'est pas un domaine réservé à quelqu'un. Ça doit venir. On parle beaucoup de leadership par l'exemple. Si le patron, il fait la gueule, tu peux mettre 15 chief happiness officers, il se passera rien. Si les collaborateurs sont pas heureux et qu'il y a une ambiance de merde, voilà. Donc je pense que la happiness, elle doit pas faire l'objet d'une fonction comme si c'était un champ d'expertise. Elle doit venir de chacun. Et moi, j'ai toujours un peu de mal. Je sais que ça a été beaucoup la mode il y a quelques années, pas longtemps, il y a 4-5 ans, peut-être un peu plus aux États-Unis où ils sont parfois un peu en avance. Mais j'ai l'impression qu'on en entend moins parler. Tu sais, de toutes ces boîtes où on met une salle de billard, des baby-foot, un bar, des... J'ai un peu de mal. Je préfère que mon entreprise soit un lieu où on bosse bien, et donner le temps à mes collaborateurs de quitter à midi, de revenir à 14 heures, d'être libre de gérer leur temps si le travail est bien fait, pour rentrer à la maison, manger avec leur chérie, leurs enfants, ou aller se faire un tennis avec leur pote Minter, et de revenir à 14 heures, que de faire une espèce de totalitarisme où tout se passe dans l'entreprise et où on doit faire le sport dans l'entreprise, on doit faire la sieste dans l'entreprise, on doit boire un verre dans l'entreprise. J'ai un peu de mal. Peut-être que c'est parce que j'ai 51 ans.
Ah non, non, non.
Et old school.
Oui, non, mais c'est génial parce qu'en fait, je dis souvent, si on a besoin de le nommer, c'est que ça n'existe pas. Donc, le chief ethics officer, l'éthique, nous, on est mauvais, donc on va donner ça, la responsabilité à quelqu'un d'autre parce que nous, on n'est pas éthique. Et en fait, c'est ce que je dis moi aussi souvent pour provoquer, pourquoi vous avez nommé quelqu'un de digital? Le digital, c'est pour tout, c'est pour chaque fonction. Ce n'est pas possible que ça soit géré par quelqu'un. C'est comme dire un chief oxygen officer, quelqu'un qui doit respirer. Bon, putain, on n'est pas arrivé là, j'espère.
Non, mais tu vois, tu as raison, les mots sont importants. Donc voilà, chief happiness officer, moi j'ai un peu de mal parce que je pense que ce n'est pas quelque chose qui doit être privatisé. Ça doit venir par l'exemple plutôt du haut et après rayonner. Mais parlant des mots, puisque je sais que tu aimes bien les mots, toi aussi, et ça me fait penser, puisqu'on parle aussi de leadership, j'avais lu ou entendu il y a quelques jours, je ne sais plus si c'est lu ou entendu, la réflexion sur le mot « chief executive officer ». Et là aussi, la personne disait, mais il faudrait peut-être là aussi revoir le mot. Est-ce que c'est « chief executive officer » ou est-ce que ce n'est pas peut-être « chief vision officer » plutôt que « executive ». Et cette vision que le leadership doit donner, partager, ce n'est pas qu'une vision de « il faut faire plus neuf l'année prochaine et il faut baisser le stock ». C'est aussi une vision de « mais j'ai envie que ça soit quoi, moi, ma vie au bureau demain ?» J'ai envie que ça soit quoi, ma vie au sens large au demain ?» Mais comme tu l'as dit très justement, comme ma vie, elle passe beaucoup au bureau, comme on passe quand même beaucoup de temps au travail, il ne faut pas que ce moment-là soit une parenthèse dans notre vie. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, le plaisir, c'est juste les 20 minutes qui nous restent à 19h pour boire une bière avec un copain ou aller faire un tennis. Il faut investir 24 heures de sa vie.
The Jim Stroud Podcast explores the discoveries and trends forming the future of our lives. Brain-to-brain communication, robot bosses, microchip implants for workers, and artificial intelligence replacing human workers are all happening now. If you want to know what's happening next, subscribe now to the Jim Stroud Podcast.
Et ça montre bien dans les mots, car en fait, dans l'anglais, on dit « chief executive officer », comme tu dis. En français, on dit « président directeur général » et « directeur général ». Et je pense que le français, en fait, en l'occurrence, peut être plus proche de ce qu'il faut, parce qu'on parle de directeur et direction. Et là où je suis en train de faire un lavage de cerveau, brainstorming, pardon, c'est une tempête de cerveau. Ça, c'est bien canadien de toujours traduire les mots en anglais. En fait, pour moi, le vrai titre pour moi, pour un PDG, c'est le chief, l'officier du sens. Et là-dedans, le français est aidé parce que là, le sens, c'est à la fois la direction, dans quel sens va-t-on, mais pourquoi on fait ce qu'on fait, à quoi rime notre sens. Donc, pour toi, sur Velecta, en parlant du sens, etc., vous avez marqué votre... j'ai mis quelque part, vous avez une vision d'imaginer la coiffure de demain. Et puisqu'en tous les deux, on connaît la coiffure bien, enfin, j'ai la prétention de toujours connaître un peu, en tout cas pour l'avoir vécu pendant 16 ans, ça ressemble à quoi pour toi, ce sens et la coiffure de demain?
C'est une vision qui peut paraître un peu ambitieuse ou prétentieuse, la coiffure de demain, parce que je n'ai pas la certitude de détenir une vérité sur que sera la coiffure de demain, mais j'ai envie de dire plus simplement que c'est un métier manuel, c'est un métier humain, et c'est un métier beauté. Si je devais résumer, manuel, humain, et beauté. Et ce triptyque-là, il est aujourd'hui parfois un peu cabossé. La main, elle est un peu cabossée parce que les savoir-faire se perdent, l'automatisme, le do-it-yourself, l'humain se perd aussi parce que c'est un métier qui a connu des difficultés avec le confinement. C'est un métier difficile, qui n'est pas forcément toujours valorisé, qui n'a pas toujours été présenté comme un vrai métier dont on rêve. Parfois, il a été présenté de manière assez moqueuse comme le métier de ceux qui n'ont pas réussi à faire autre chose. Bon, donc il y a une valorisation humaine qui est le cœur de ce métier et qui pour moi est vraiment très importante. Et puis il y a aussi la beauté. Et la beauté, parfois, je me suis souvent posé la question, moi qui suis un peu comme toi, philosophe, et qui ai envie de donner, comme tu l'as dit à l'instant, du sens à ma vie, je me suis aussi pas mal demandé si finalement je ne faisais pas un job assez ridicule et assez dérisoire. la beauté. Parce que finalement, ça me permet d'ailleurs de rester un peu modeste quand on a des difficultés dans l'entreprise. Je suis le premier à rappeler à mes collaborateurs, attendez, vous savez quoi ? On ne sauve pas des vies, on n'interrompt pas des guerres, il y a des enfants qui n'ont pas d'eau dans le monde. Donc, vous savez quoi ? On va se calmer, on va se remettre un petit peu droit et on va avoir les pieds sur terre. Mais quand même, quand je cherche du sens à la beauté, je me souviens, j'ai le droit de citer une marque.
Of course.
Je me souviens d'un slogan de Deux Sanges. C'était il y a 15 ans, peut-être qu'ils l'ont repris après, parce que je trouvais qu'il était très bon. C'était « Recoiffe-moi le moral ». Ça voulait dire en fait que la beauté, ce n'est pas que superficielle. La beauté, c'est aussi la beauté intérieure, c'est aussi de l'énergie. C'est-à-dire que quand un homme ou une femme, le matin, se lève du mauvais pied, que tu n'arrives pas à te coiffer, que tu as un petit bouton de fièvre, là, je ne sais pas quoi, des bêtises, hein, apparemment. Là, on est dans le superficiel, peut-être, dans l'apparence. N'empêche que tu as un peu l'armure fissurée. Tu as un peu l'énergie en bas. Et la beauté superficielle, exagérée, outrancière, des réseaux sociaux, le bovarisme, ce n'est pas du tout ça qui m'intéresse. Mais la beauté qui consiste, par exemple, à aller maquiller ou aider à choisir une perruque à des femmes qui suivent un traitement du cancer et qui ont perdu leurs cheveux, en les rendant belles, fières d'elles-mêmes, on leur redonne du souffle. Donc je pense que pour moi, la coiffure de demain, c'est une coiffure qui doit se recentrer sur ces trois piliers, la main, l'humain et le sens de la beauté.
Génial. J'adore Nicolas. Tu m'étonnes parce qu'en fait, je ne savais pas où ça allait et j'adore comment tu as atterri. On va terminer dans notre entretien sur notamment ce qui s'est passé. Donc, tu l'as repris en 2019 et bang! Début 2020, annonce mondiale, fermeture de compte, fermeture du business, enfin, fermeture de société en tout cas. Comment est-ce que tu as géré ça?
Eh bien, je vais encore une fois, et ça sera peut-être la dernière, te donner, partager une citation, je ne sais plus d'où elle vient, mais quand il neige, il y a deux types de personnes, il y a ceux qui râlent et qui restent à la maison, il y a ceux qui mettent des pneus neige. Donc, effectivement, je rachète cette entreprise. J'ai un beau projet dans ma tête, transformer une usine en marque. J'ai plein d'idées. Bam ! 6 mois plus tard, Covid. Et cette entreprise, en plus, avait comme caractéristique d'avoir un modèle commercial exclusivement en direct, enfin physique, pas digital du tout. Donc, Velecta vend à des distributeurs qui vendent à des salons de coiffure. Et zéro business digital. Boom, Covid. Donc là, chiffre d'affaires, c'est pas moins 50, c'est zéro, zéro, zéro. Donc là, deux options. Et d'ailleurs, j'ai vu un peu dans tous les domaines d'activité, on a vu un peu ces deux options. Il y a des entreprises qui sont fermées, qui se sont un peu mis en hibernation, comme le film de Funès, Hibernatus, en se disant, on ressortira quand ça ira mieux. Et d'ailleurs, ces entreprises, on les voit ressortir un petit peu la tête aujourd'hui, mais on les voit comme si elles avaient été congelées et on les voit comme on les avait laissées il y a un an et demi.
Sauf que, et ils sont moins bien. Ouais. Ils n'ont pas été en action pendant ce temps-là et ils reviennent au bureau et ils se regardent différemment. Il y a eu un changement. Donc, tu ne peux pas continuer comme tu étais.
C'est ça. D'ailleurs, il y a parfois, on entend, quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre la vie comme avant ? Mais en fait, ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, ce n'est pas de reprendre la vie comme avant. On ne veut pas un retour vers le passé. C'est comment je me projette demain avec mes forces, mon expérience, ce foutu Covid et plein d'autres choses. Mais je n'ai pas comme ambition d'être demain comme j'étais il y a 10 ans. Bref, pour Velecta, je me suis dit, comme je suis plutôt d'un naturel toujours optimiste et que j'ai la chance, je crois, d'avoir une bonne étoile, et je me dis, ce qui arrive, il y a toujours du bon à en prendre dans la vie, je me suis dit, j'ai plein d'énergie, je ne peux pas tellement la mettre au service de l'extérieur parce que l'extérieur, tout est fermé. Donc, je vais faire ce pour quoi j'étais venu. Je vais bosser mon projet de transformation de cette usine en marque. Ça nécessite beaucoup de travail en interne, des choses qui sont invisibles de l'extérieur, réorganisation, etc. Mais ça nécessite de préparer aussi beaucoup de choses qu'on pourra révéler au moment où tout ça va se calmer. Donc, c'est un peu un pari parce que ça veut dire que dans cette période d'un an et demi, tu as zéro revenu, mais tu dépenses. Donc, tu te mets dans le rouge. Mais bon, j'y crois. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, on a travaillé ce nouveau Velecta qui s'appuie, comme je le disais au début, sur des piliers existants de l'entreprise, mais qui n'étaient pas mis en avant. Et puis sur une projection avec de l'innovation, de la nouveauté, une nouvelle image. Donc pour répondre à ta question, j'ai profité de... C'est comme s'il se mettait à pleuvoir des trombes pendant une semaine. Et ben, au lieu de bouquiner dans mon canapé, je me suis entretenu physiquement à la maison, j'ai fait des pompes. Comme ça, dès que le soleil revient, je suis affûté, je suis prêt à y aller. Ben voilà, j'ai profité de cette période. Ce qui a été un challenge, ça a été de garder le moral des troupes. Parce que moi, je me suis dit, on va en profiter pour. Mais en même temps, les autres, ben, à l'atelier, il n'y avait plus d'activité. Au commerce, il n'y avait plus d'activité. Donc, il fallait mobiliser les gens en leur disant que, c'est quoi, on est en train de préparer une fusée. Mais c'est vrai qu'il y a eu un challenge.
Génial. J'adore. Et enfin, ça doit être quand même un passage extrêmement difficile. Tu as pris ça sur toi. Tu vas mettre en œuvre ta vision de passer de l'usine à la marque. Tu es passé sur l'e-commerce. Qu'est-ce que tu as retiré de ta transformation sur l'e-commerce pour Velecta? Quelles sont les leçons? Qu'est-ce que tu as senti? Les erreurs faites ou les bonnes choses que tu as réussies?
J'ai trouvé que l'e-commerce, c'est beaucoup de techniques, des outils, donc il faut les connaître. Moi, je ne les connais pas. Je ne suis pas un geek, je ne suis pas hyper à l'aise sur les réseaux sociaux. Je suis présent sur LinkedIn, l'entreprise Velecta, et moi aussi à titre perso. Mais tu vois, à titre perso, je ne suis pas très Instagram, je ne connais pas bien, j'ai un compte, c'est juste pour voir ce que publient mes filles.
C'est toujours ça. Donc,
c'est toujours ça. Je n'ai pas Facebook, tu vois, donc je suis un dinosaure un peu. Donc je pense que pour prendre le tournant digital, il est important déjà d'avoir une maîtrise technique, pas forcément soi-même, hein, mais d'avoir un appui en interne ou sur une structure extérieure, une agence. Mais il y a de la technologie derrière sur le digital qui est incroyable et qu'il faut connaître. Et après, il y a le temps. Parce que j'ai beaucoup entendu dire le digital, c'est merveilleux. Alors, est-ce que c'est moi qui m'y suis mal pris? C'est possible. Hein. Mais je pense qu'en fait, même le digital, il faut du temps. Ça ne se passe pas du jour au lendemain. Et quand tu arrives d'un business qui est 100% physique et tu te dis « Waouh, mais c'est génial, on a le digital, il y a tout à faire, on y va », tu ne passes pas de 0% digital à même 10% digital en une semaine, ça se construit. Donc, il y a un côté dans le digital qui paraît un peu magique, qui paraît un peu instantané, qui paraît un peu facile. Je trouve que ce n'est pas vrai. Il faut du temps. Il faut de la technique et du temps. C'est ce que j'ai retenu de cette année et demie où je m'efforce de surtout pas perdre mon business physique, mais d'avoir à côté ce canal digital.
Enfin, j'adore les sujets, les conversations autour du temps, car en fait, ça nous appartient tous, cette notion, cette contrainte de temps. Et pour autant, un autre temps, pour autant, la notion du temps a changé pour moi. Et dans ce que j'ai vu, moi, dans les entretiens, les travaux que je fais avec des clients, dans cette notion de temps, on se pose davantage la question, qu'est-ce que j'en fais de mon temps au bureau, à la maison, à quoi ça sert, quel est le sens de ma vie, le temps de ma vie. Et quand on est sur le digital, il y a, comme tes filles peuvent te faire connaître, une vision de soi-même qui est, on va dire, travailler comme on faisait dans le temps, l'image qu'on projette. Alors, je trouve que les filles sont quand même très capables aussi de présenter des parties d'elles plus dans le privé, dans les comptes privés d'Instagram, beaucoup plus l'authenticité de leur vie. Il y a évidemment les Instagrammeurs, influenceurs qui vont toujours se faire belles, etc. Mais par ailleurs, il y a quand même une gestion parmi les jeunes de ce digital qui n'est pas que de la beauté parfaite, etc. Mais il faut savoir aussi que c'est beaucoup dans un temps réel, temps real time. Donc, comme tu peux être sur social media, si quelqu'un pose une question, tu ne peux pas attendre quand tu es prêt. Ben, il y a un temps d'attente qui est beaucoup plus impatient, notamment chez les jeunes, mais partout. Et donc, du coup, plus on est dans les réunions bureaucratiques, plus on n'est pas en touche avec soi-même et son instinct, on doit faire des messages par comité. Et ça aussi, ça s'apprend. Et ça, ça prend un sacré temps, pour ne pas dire une grande révolution pour certains. Car toi, j'ai vu que tu t'es mis sur LinkedIn, j'ai souri comme je te connais. J'ai adoré le fait que tu te présentes en tant que fondateur et PDG de Velecta. Tu parles au nom de Velecta, mais au nom de Nicolas Chaussant. Et il y a beaucoup de grandes entreprises, on peut penser à parler à beaucoup, qui ne savent pas faire ça, qui ne permettent pas le patron ou la patronne d'avoir ce temps et le ton personnel en ligne, avec un sourire, pas scripté, avec le truc, enfin, tout doit être dit comme il faut. Et j'apprécie la manière que tu te présentes. Et je voulais te poser ta question, dernière question. Comment tu t'es senti avec ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu étais en phase avec ou tu as dû faire un effort? Et comment ça s'est passé pour toi? Ce passation de toi sur LinkedIn, j'ai vu des vidéos aussi, je pense, sur le compte Velecta de Facebook, etc.
C'est drôle que tu me poses cette question, Minter, parce que c'est une vraie interrogation pour moi. Pendant des années, à la fois quand j'étais patron de filiale comme Redken, par exemple, chez L'Oréal, mais même si chez L'Oréal, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on est dans un cadre plus large et on va peut-être être plus délicat sur l'existence individuelle, etc. Mais même, par exemple, avec GHD, où j'ai dirigé la boîte pendant 12 ans, créé, dirigé, j'ai toujours été très reluctant, très... pas à l'aise avec le fait de me mettre en avant. Pour moi, pour vivre heureux, vivons cachés. Pour moi, ce qui était important, c'était de faire ce qu'il fallait dans les coulisses. Et je préférais pousser l'entreprise, pousser et être plutôt, moi, caché. Et les agences de RP, les agences me disaient, mais Nicolas, il faut que tu prennes la parole plus, que tu te montres, que tu incarnes l'entreprise. Parce que, un, c'est important d'incarner l'entreprise. Et deux, je vais me faire un petit compliment parce qu'on me l'a fait, tu présentes bien, donc voilà, etc. Et j'étais jamais très, très à l'aise. Et puis là, c'est vrai que je me retrouve seul à la tête de Velecta cette fois-ci. Je n'ai pas de partenaire, je n'ai pas de fonds d'investissement. Et je me dis, je dois l'incarner vraiment, donc j'y vais avec ma façon de faire. Je fais des petites vidéos sur LinkedIn où je présente un produit. Alors, on me dit... c'est peut-être pas à toi, le patron, de présenter un produit. C'est vrai. Et en même temps, je me dis, oui, mais c'est une PME, on est tous fiers de tout ce qu'on fait et j'ai envie de tout porter comme j'ai envie que mes collaborateurs portent tout. Donc, c'est un peu nouveau pour moi de me mettre en avant. Et je continue à avoir quand même un petit peu au fond de moi cette idée pour vivre heureux, vivons cachés. Et je préfère que les gens apprennent à connaître Velecta qu'apprennent à connaître Nicolas Chaussant. Mais si je peux aider, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Tant que ça a du sens, tant que, comme tu l'as dit, c'est pas une espèce de fuite en avant de réseaux sociaux, tant que le temps que tu y passes est un temps qui garde du sens. Voilà, ça c'est. Donc, j'irai pas sur les réseaux sociaux pour montrer mes dernières vacances ou ma dernière paire de chaussures. Par contre. Pour dire qu'on a été au Palais de l'Élysée parce qu'on représente une belle entreprise avec le savoir-faire français, le fabriquer en France, ça a du sens.
Alors, avec ça, Nicolas, merci de ton temps. C'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Pour ceux qui veulent connaître un peu mieux l'histoire de Velecta et ou toi, quels seraient les meilleurs moyens, liens dans les show notes?
Super, merci beaucoup Minter.
Merci de nous avoir écoutés sur Minter Dialogue en français. Vous trouverez tous les liens et références cités lors de cet entretien sur mon site minterdial.fr. Pour vous inspirer, je vous laisse avec une chanson que j'ai écrite dans ma jeunesse, A Convinced Man.
I like the feel of a stranger tucked around me, precipitating to feel free. Trust is the reason, still I won't toe the line. I sit here passively, hope for your respect, anticipating the thrill of your intellect. Maybe I tell myself there's no use in me lying. I'm a convinced man, building it. I'm a convinced man to live and die submerged. A convinced man in the arms of a woman. I'm a convinced man, challenge my fate. I'm a convinced man, competition's innate. A convinced man in the arms of a woman. Despise revenges and struggle with deceit. Live for the challenge so life's not incomplete. What's wrong with challenge? I know soon we all die. I like the feel of a stranger tucked around me, precipitating the danger to feel free. Trust in my reason and let me show you why. I'm a convinced man, practicing my lines. I'm a convinced man, here in these confines. A convinced man, in the arms of a woman. I'm a convinced man, put me to the test. I'm a convinced man,
I'm ready for an arrest.
I'm a convinced man, arms of a woman.
I'm Ken Harbaugh, host of Warriors in Their Own Words, a podcast that presents the unvarnished, unsanitized truth of what we have asked of those who defend this nation. As a country, we need these stories more than ever. Stories from Americans who have borne the battle, including 30-year-old remastered interviews with veterans from World War I recounting their time in the trenches of Europe, and with veterans from World War II, Korea, Vietnam, and from our most recent conflicts in Iraq, Afghanistan, and other battlefields Americans may never have heard of. Hear their stories by listening to Warriors in Their Own Words wherever you find podcasts.